Vous êtes sur RTL.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Bonsoir, 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 bonjour à toutes et tous. On fait le match 18h30, 20h chaque samedi. Bienveillance, info, débat, échange avec vous tous sur Twitter, bien sûr, et le compte @RTLFoot. Avec moi ce soir, la voix ensoleillée dont refait le match, Cindy Colmenares. Bonsoir.
Bonsoir, Christian, bonsoir à tous.
Dominique Séverac du Parisien aujourd'hui en France. Bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
Le procureur dont refait le match, Gilles Verdez. Bonsoir.
Bonsoir.
Et notre Alain Decaux à nous dont refait le match, incollable sur l'histoire du football français et international, Xavier Barrémont. Bonsoir.
Salut Christian, bonsoir à tous.
À 20h, RTL Foot, Eric Silvestro, Xavier Domergue, Baptiste Durieux et à Geoffroy Guichard, Raphaël Vantard pour un très sulfureux Saint-Étienne-Bordeaux. Avant match, match après match. Au sommaire, Lens-Lille, le derby. Bientôt la reprise de la seconde période. Si vous nous rejoignez, vous avez entendu dans le journal de 18h présenté par Vincent Parisot, match qui a été à l'instant même d'ailleurs la reprise de la seconde période. On va retrouver dans un instant Samuel Duhamel. Des supporters lensois sont arrivés sur la pelouse pour se mettre face aux supporters lillois. On va revenir dans un instant. Ras-le-bol. Ils n'ont pas compris, les supporters, qu'il y avait déjà eu des incidents à Montpellier pour Montpellier-Saint-Etienne, qu'il y avait eu des incidents à Nice pour Nice-Marseille, et ça recommence, même s'il n'y a pas eu danger, mais tout de même c'est insupportable. Au sommaire, donc Lens-Lille, le derby 0-0 dans un instant, Samuel Duhamel. Nous allons revenir sur les Lille justement et les 5 autres clubs français invaincus cette semaine en Coupe d'Europe. Est-ce que c'est le fruit du hasard? C'est l'une des questions que je vais vous poser. Il va falloir que je me calme. Mbappé, Messi, Neymar, cette semaine à Bruges. Alors tout le monde leur tombe dessus. Mais pourquoi tant d'impatience? Calmons-nous. La FIFA qui fait le forcing pour imposer une Coupe du Monde tous les 2 ans. Le foot est-il foutu? Et puis toute l'actualité chaude avec notamment Saint-Étienne-Bordeaux ce soir. Et bien sûr, vous le savez aussi, les tirs au but juste avant 20h. Gilles Verdez adore cet exercice.
Oui, c'est pour l'effort.
Car les plus faibles disparaissent.
Absolument, très vite.
Et au classement général des débatteurs, c'est actuellement Gilles, justement, et Sébastien Tarrago, qui sont co-leaders de ce championnat, devant François Manardeau et Baptiste Després, qui sont également à égalité. A tout de suite, vous écoutez RTL et vous avez bien raison.
Christian Olivier sur RTL.
On refait le match.
On fait match, émission 100% interactive, vos messages Twitter relayés par Baptiste Durieux. Bonsoir Baptiste. Le compte @RTLFoot, émission filmée sur RTL.fr, mais également sur l'application RTL. Lens-Lille, si Baptiste me fait la tête et ne me dit pas bonsoir, j'imagine que Samuel Duhamel va pouvoir me répondre. Bonsoir Samuel. Non. Alors que se passe-t-il? Alors là, c'est le plaquage total. Samuel Duhamel, Félix Bollaert.
Je suis là, Christian. Est-ce que vous m'entendez?
Parfaitement bien.
Parfaitement bien, super. Écoutez, 50 minutes ici à Bollaert de Lille, 0-0. Mais moi aussi, je fais la tête parce qu'on a assisté à un triste spectacle pendant la mi-temps. Vous l'avez dit, avec ces débordements, une centaine de supporters lillois qui ont voulu escalader. On va reprendre les éléments dans un ordre chronologique. Donc d'abord, ces supporters lillois qui ont voulu escalader le grillage, les séparant de la tribune lensoise, avec clairement une volonté d'en découdre. Heureusement, ils ont été retenus par les vigiles. Mais alors là, une centaine de lensois a quitté la tribune pour manifester leur mécontentement. Des sièges ont volé. Il y a plusieurs supporters lensois qui ont été évacués par civière. Et là, les CRS sont intervenus pour calmer la situation. Et la mi-temps a duré évidemment beaucoup plus longtemps que prévu, puisque le match vient de reprendre. La mi-temps a duré 45 minutes, histoire de calmer un peu calmer tout le monde, parce que c'était très très tendu à la mi-temps.
Mais franchement, qu'est-ce qui peut se passer dans la tête des supporters? Messieurs, je vous interroge également et Samuel peut intervenir. On a vécu pendant quasiment une saison de foot sans foot, puis de foot sans public. Là, c'est un derby, c'est chaud, c'est coloré. On a pour habitude de dire, on peut peut-être d'ailleurs en débattre, que le stade Félix Bollaert a dans ses entrailles le meilleur public de France.
Oui, une belle ambiance, effectivement. Hein, voilà. Oui.
Et là, tout part à volo. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait eu des incidents Montpellier-Saint-Etienne, c'était Montpellier-Marseille.
Marseille, oui.
Nice-Marseille, c'est plus récent également, Xavier Barré.
Mais à part Nice-OM, où là, le problème est venu des supporters locaux, et avec les joueurs, le reste, c'est des problèmes entre supporters. Donc, la solution la plus simple, c'est d'interdire le déplacement des supporters sur le terrain extérieur. C'est quand même ce qu'il y a de plus simple, parce que les problèmes à Montpellier sont venus effectivement d'échauffourées avec les Marseillais. On sait qu'il y a beaucoup de supporters de l'OM en général à Montpellier, et presque les Montpelliérains sont minoritaires. Mais et puis là, c'est la proximité Lens-Lille qui fait qu'il y a des accrochages entre Lensois et Lillois.
Non, mais si vous avez
pas les supporters visiteurs, vous avez plus de problèmes.
Non, mais si tu prends par exemple l'OM, tu as très bien vu aussi que certains supporters sont très identifiable, donc on peut aussi gérer les cas de ses supporters particuliers, comme Christian venait de le dire. En fait, on a vécu une période où il n'y avait pas de supporters au stade, on ne va pas se priver d'une super ambiance d'un stade comme celui de Bollard, parce qu'il y a des supporters qui ne savent pas se tenir, et il paraît que
c'est Lillois qui auraient jeté des projectiles également. Mais si vous avez mis, si vous enlevez les 200, 300 ou 400 supporters Lillois,
non, mais ça, c'est
vous
des les mesurettes,
enlevez,
là.
Vous les enlevez de Bollard, et bien il y aura une très belle ambiance à Bollard.
Non, mais sinon, on arrête les foot, tant qu'il y a pas possible.
Je crois que vous ne prenez pas conscience du problème. Là, vous nous proposez des mesurettes. Quand des gens se battent dans un stade du foot et utilisent, c'est ce qui se passe en ce moment, le stade de foot comme un exutoire à des problèmes plus globaux, c'est qu'il y a un vrai malaise. Et quand on a un malaise, qu'est-ce qu'on fait? On se soigne. Donc le match n'aurait jamais dû reprendre. Quand il y a un incident, on interrompt le match. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des gens évacués par civière, nous disait votre envoyé spécial. Il y a des violences, il y a des gens qui rentrent sur la pelouse. Et alors on va attendre quoi? On va attendre un drame épouvantable. Donc il faut arrêter les matchs. Non, voilà, mais... on arrête le match, on sanctionne les deux équipes puisque les supporters sont en cause. Les équipes sont responsables de leurs supporters, moins 3 points, et un jour ça ira mieux. Sinon, ça va, rien ne se solutionnera.
Dominique Sévrac.
Je ne suis pas sociologue, mais j'ai l'impression que depuis les déconfinements, les reconfinements, les déconfinements, depuis, on revit à peu près normalement, je sens que la société française est plus fragile, plus agressive. Il me semble qu'il y a une nervosité, il y a une tension dans la société française plus accrue qu'avant le coronavirus.
Espèce de cocotte minute, et effectivement.
Il me semble qu'elle se propage désormais au football, ou en tout cas que le football n'est pas épargné, puisque comme vous l'avez dit, on a vécu pendant les huis clos, maintenant on voit le retour des supporters, et c'est le retour de la bêtise. C'est une agressivité insupportable. Je comprends pas, on ne monte pas sur scène au théâtre. Je ne comprends pas ces gens qui veulent absolument aller sur un terrain de football ou traverser la pelouse pour aller en cogner d'autres ou aller voir Dimitri Payet. On ne touche pas au carré vert. Donc il y a la solution de Gilles qui me semble très bonne. On arrête le match, on sanctionne tout le monde.
Elle est radicale.
Mais
ça va les calmer.
Et après il y a la justice qui peut.
Après
il y a la justice. Ces gens-là, il y a des vidéos. On les repère très facilement. On les arrête. On les condamne. Et quand on aura sorti 1000, 2000, comment on fait les Anglais, Xavier?
Oui, ils y ont mis beaucoup de temps. Beaucoup plus de temps que de relancer un match ou de le suspendre. Effectivement,
non,
c'est un projet à très long terme.
Attendez.
Regardez le Paris Saint-Germain pour effectivement ramener le calme dans les tribunes du Parc des Princes. Le plan Le Prou, ça a été effectivement radical, mais ça a pris du temps. Donc on peut pas dire
que. Hein, ça a pris un été et
oui, parce qu'ils avaient commencé à identifier
pendant un an et après
ils ont commencé à identifier les personnes bien avant.
Oui, mais
donc ça a pris
Barret,
beaucoup de temps.
Avant,
il y a eu deux morts aussi. Hein.
Avant d'attendre qu'il y ait des morts comme en Angleterre où ça a été radical, mais maintenant tout le monde s'est calmé et le plus.
Enfin, ça revient de temps en temps.
Mais bon, dans les deuxième et troisième divisions,
on peut aussi mettre les places à 200 euros.
Ou Dominique Sévrac a raison.
Non, ça c'est élitiste. Non, je ne suis pas d'accord. Pour moi, le football,
avant d'attendre qu'il y ait des morts comme en Angleterre, avant d'attendre qu'il y ait deux morts comme il y en a eu au Parc des Princes et à l'extérieur du Parc des Princes. Effectivement, c'est une solution radicale, mais c'est la solution finalement la plus raisonnable.
Non,
c'est
parce
de
que
dire...
vous priez...
Mais on prive qui? On prive quoi?
Mais les vrais supporters qui sont là.
Tous ceux qui ne peuvent pas aller voir les spectateurs. Mais non, on s'en fout pas,
Gilles. Mais il y a des gens qui se battent.
Mais non, mais
on s'en fout pas. Il y a des gens qui payent leur abonnement, qui n'ont pas la chance de pouvoir aller au stade parce qu'ils sont vieux.
Tu crois qu'ils ont envie de voir ça, Xavier?
Ils ont envie de voir un match qui soit pas interrompu.
Mais quand il y a des manifestations dans Paris, la préfecture, elle bloque des stations de métro et vous hurlez pas, qu'est-ce que c'est que ça? C'est dangereux, on arrête.
Et quand c'est jugé dangereux, la manifestation, elle est interdite.
Voilà, exactement.
Donc en fait, on va tous faire en fonction de l'attitude de certaines personnes qui ne sont pas vraiment des supporters, c'est juste des gens qui s'aiment et qui sont fous.
C'est pour que ça s'arrête.
Non, mais un seconde, je veux bien qu'on arrête les matchs, on aurait dû l'arrêter par rapport à l'OM, mais pour moi, là, il n'y a pas des joueurs qui sont blessés, c'est entre autres tribunes. Pour moi, c'est renforcer la sécurité et pas arrêter ou faire en sorte que les supporters ne puissent pas venir, alors qu'on sait que c'est une infime quantité.
Mais ça devient
une
pitrerie, le football français.
On veut que ça finisse.
Toutes les semaines, il y a ça.
On veut voir des matchs. On veut éradiquer le problème.
Comme me le faisait remarquer avant de démarrer cette émission Eric Silvestro, là, les supporters lensois ne sont pas venus pour se battre pour un cornet de frites ou une sauce samouraï, hein. Je mets ça avec un peu d'humour, mais ils sont venus faire le coup de poing pour tenter de venir aider leurs supporters, leurs camarades, Lensois derrière les buts.
Côté, oui.
Ben oui.
Mais parce que
Samuel,
c'est
bien cela quand même.
C'est des deux côtés, ce n'est pas que les Lensois. Samuel,
sans vouloir critiquer un public ou l'autre, mais effectivement, si on reprend les éléments chronologiques, ce sont d'abord peut-être une quarantaine ou une cinquantaine de supporters lillois qui ont, si vous voulez, en fait, escaladé les grillages pour vraiment aller agresser des familles,
et jeter des projectiles.
Exactement, jeter des projectiles. Et alors là. après ça vaut ce que ça vaut.
Xavier, quand tu entends ça, tu peux pas dire de ne pas arrêter le match, voir quel match.
J'ai bien entendu Samuel quand il a commencé son intervention. Les problèmes viennent des supporters lillois, donc il y a plus de déplacement de supporters.
Mais non, mais
et les supporters lensois peuvent soutenir leur équipe sans qu'il y ait des imbéciles qui viennent les embêter chez eux. C'est quand même la meilleure solution.
C'est qu'il y a une duplicité, une complicité énorme des liens organiques entre les dirigeants des clubs de football français et les supporters. À part le plan Le Pro et quelques initiatives dans certains clubs, ils sont les uns avec les autres et les dirigeants ne sanctionnent pas, ne veulent pas de problèmes.
Mais c'est leur client.
Veulent la paix sociale. Oui, mais quand vous avez des clients qui se battent, vous les virez.
Mais donc, ils se battent entre eux.
Mais alors,
ça arrive à Paris, c'est tout. Il n'y a qu'à Paris que les supporters se battent entre eux.
Je suis assez étonné, Xavier, de ta permissivité.
Moi, je suis contre.
Il faut attendre qu'ils se battent entre eux, il faut attendre qu'il y ait des morts pour finalement.
Il faut prendre des mesures réalistes sans pénaliser tout le monde. Moi, j'ai horreur des mesures qui pénalisent les gens innocents. Là, vous allez pénaliser pour effectivement 40 Lillois, 40 Lillois, vous allez pénaliser 30 000 Lensois.
Tu dis on interdit les déplacements de supporters, mais alors il y a peut-être des supporters lillois qui sont adorables, géniaux, et donc ils pourront plus venir. Donc ta mesure, elle prive aussi des gens.
Eh ben, elle en prive.
C'est injuste.
Oui, il n'y a jamais une bonne mesure qui ne prive rien.
Y a effectivement...
Quand il y a un problème, il faut taper.
C'est un principe de politique essentiel, de deux mots. Il faut toujours choisir le moindre. Le moindre, c'est pour qu'il n'y ait pas de confrontation dans les stades, qu'il n'y ait pas de supporters visiteurs.
Tu as comparé à juste titre par rapport aux manifestations. Oui. Mais on est bien d'accord que les manifestations, certes, on peut les arrêter, mais on n'empêche pas de refaire des manifestations puisque c'est un droit. Ben là, c'est à peu près la même chose. On peut effectivement arrêter un match jusqu'à ce que l'ordre soit encore, les choses rentrées dans l'ordre, mais on ne va pas tous les temps arrêter complètement des matchs ou priver des supporters de venir parce qu'il y en a qui sont des vrais supporters, veulent être là et se comportent parfaitement.
Si vous arrêtez le match, problème lié visiblement aux Lillois et aux Lensois. Match perdu
aux Lillois.
Arrêtez.
Les deux,
on fait le travail. On arrête le match. On enquête. Si les deux groupes de supporters sont responsables, match perdu pour les deux équipes, moins 3 points, on tape au portefeuille. Moins 3 points, c'est de l'argent perdu. C'est des risques de descente. On tape là où ça fait mal pour que ça cesse. Mais nous, on prend des mesurettes et après on dit oui, alors voilà un match de suspension avec sursis. Alors, ça ne suffit pas.
Moi, je mets un petit bémol sur la perte de points parce que c'est aussi imposer des sanctions aux joueurs qui ne sont absolument pas responsables.
Mais c'est pour que les supporters ne recommencent pas.
Alors, pour qu'ils ne recommencent pas, la première solution, c'est effectivement interdire les déplacements des visiteurs. Premier point. Et si les visiteurs ont accès au stade et s'il y a bagarre entre les supporters des deux équipes, on arrête le match et on fait jouer à huis clos.
Les Bordelais et les Stéphanois ont l'habitude de se mélanger parce qu'ils s'adorent, les supporters Stéphanois et Bordelais. Ils ont l'habitude de se mélanger dans le même stade à Bordeaux et à Saint-Etienne. Ils se mélangent. On l'interdit qui alors les Lillois, mais on n'interdit pas les Bordelais.
Mais c'est triste qu'on ne parle pas de la sécurité en fait, parce qu'on est en train de jeter la faute complètement sur les supporters, ils ont la faute. Mais la sécurité dans les stades, pourquoi ça peut être possible aussi que les gens puissent tous débarquer sur les terrains, qu'ils puissent passer d'une tribune à l'autre en passant par les terrains? Enfin, c'est quand même un peu exagéré au bout d'un moment.
Excusez-moi, et les services de sécurité des clubs, ils achètent la paix sociale avec les supporters depuis des décennies.
Non, alors là, tu es
complotiste. C'est pas eux qui vont trancher.
C'est moi qui suis naïve.
Mais bien sûr.
Complice, duplicité.
Bon, je ne sais pas si on va poursuivre ce débat. Les choses se sont calmées, Samuel Duhamel.
Le match a repris. D'ailleurs, on assiste à une belle rencontre. Hein. C'est vrai que c'est le premier derby.
Première période, elle a été quand même particulièrement verrouillée.
Vous voyez, si on avait arrêté les matchs, voilà.
Elle a été verrouillée. C'est-à-dire qu'effectivement, en fait, pour l'instant, ce sont clairement les défenses qui prennent dessus sur les attaques, mais je veux dire, c'est un match agréable à suivre. Premier derby dans un bollard plein depuis 11 ans, et c'est pour ça, je pense qu'il y avait également beaucoup d'attentes, il y avait beaucoup d'électricité dans l'air. Mais voilà, le score est de 0-0 pour l'instant, c'est un score assez logique.
Et à la fin, il va se passer quoi quand le match sera terminé? Ils vont vouloir continuer la bagarre?
Ah mais ça, tu pourras jamais l'empêcher complètement. Aux Pays-Bas, ils ont fait des.
Et après, on tourne une page
entre l'Ajax et le Foyer Nord, les supporters peuvent pas se voir, donc il y avait des bastons tout le temps. Donc ils ont avancé les matchs, ils les ont fait jouer à midi, comme d'ailleurs certaines affiches en Angleterre, pour éviter qu'ils arrivent déjà tous bourrés au stade. Donc pour éviter qu'ils prennent des bitures dès 8h du matin.
Parce
donc
que tu penses qu'ils prennent pas des bitures à 8h ou à 11h du matin?
Non, mais ils étaient moins bourrés que si le match était à 18h.
L'anglais est souvent très motivé.
Donc ce qui se passe, c'est qu'ils ont avancé de plus en plus les matchs, mais ils se sont aperçus que ça changeait pas grand-chose. Ils continuent. Eh ben, ils ont supprimé ils ont interdit un certain nombre de supporters dans les stades. Qu'est-ce qu'il fait ? Ils se retrouvent maintenant sur des parkings en dehors du match. Alors effectivement, ça résout pas le problème qu'évoquait Gilles. Regardez, mais au moins, on peut avoir des matchs qui se déroulent.
On fait de la radio, mais on peut le dire aux auditeurs. Une rangée de policiers comme ça devant
CRS.
De CRS devant le public. Si c'est ça le football, si c'est le football que vous avez voulu avec du public. Toujours 0-0 après combien 62 minutes de jeu, hein, Samuel Duhamel, on est d'accord. La publicité, et puis on parlera de ce match, de ce derby.
Ah oui.
Et puis également de Lille et des autres clubs français, ma foi. Hein, tous invaincus cette semaine. Avec une question, est-ce que ce sans faute laisse espérer des lendemains qui chantent pour le football français? À tout de suite.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
On fait le match jusqu'à 20h en compagnie de Cindy Colmenares, de Xavier Barret, de Dominique Séverac et de Gilles Verdez avec Samuel Duhamel à Bollard. On y retourne dans un instant. Toujours 0-0, 65 minutes de jeu. Et vos nombreux messages sur le compte @RTLFoot. Émission, vous le savez, filmée. Émission 100% interactive. Message relayé par Baptiste Durieux.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous. Le micro fonctionne, tout va bien ?
Tout va bien.
Merveilleux. Beaucoup de messages effectivement après cet envahissement de terrain et ces quelques problèmes pendant ce match. Arthur nous dit s'il fallait une preuve que cette saison de Ligue 1 est déjà mythique, on a connu pour l'heure plus d'envahissement de terrain que de 0-0. C'est absolument vrai. Message également de Sofiane, très belle inspiration des supporters lensois qui ont bien retenu les enseignements de la récente performance de leurs homologues niçois en envahissant le terrain avant le retour des supporters, effectivement. Un message de Lucas aussi qui a un avis assez tranché. L'envahissement des supporters lensois est en très grande partie la faute aux sanctions laxistes de la Ligue à l'encontre de l'OGC Nice après les graves incidents lors du match contre l'OM. C'est aussi simple que ça. Message également de Bertrand qui nous dit à Lens on peut reprendre le match mais à Nice on pouvait pas parce que peut-être les CRS sont plus costauds dans le Nord. En tout cas c'est incohérent et c'est incompréhensible. Et Jean-Marc également, fidèle auditeur, nous dit la fouille à l'entrée des stades n'est pas faite sérieusement. On oublie de contrôler si le supporter n'a pas apporté avec lui sa bêtise. Et il rajoute aussi dans 15 jours le derby Saint-Etienne-Lyon. Les places peuvent être achetées en ligne à Lyon. Interdire la venue de visiteurs dans un derby, c'est absolument irréaliste.
Alors tout ça est un ensemble de choses pour l'instant, mais on va voir comment ça va se terminer tout au long.
La seule bonne sanction dans l'histoire de Nice, ouais, c'est le point en moins.
Oui,
parce que s'ils ratent la Ligue des Champions pour un point, le point qu'on leur a enlevé en début de saison, ça sera mythique.
Ouais.
Ça sera la faute des supporters qui ont empêché Nice d'être en Ligue des
Si entre-temps, ils n'ont pas fait un recours devant le CNOSF ou le tribunal arbitral du sport et qu'il leur a été rendu.
C'est ce que je disais tout à l'heure, Dominique. Ouais, c'est qu'effectivement, c'est la sanction sportive, les joueurs n'y sont pour rien.
Ils y réfléchiront, leurs supporters, en se disant en 2021, on a pris
pour
en 2022.
Pour cela, il faut que ce soit vraiment des supporters. Et
les gars qui sont en train de réfléchir à ça.
Non, mais après, quand l'auditeur dit les Lensois ou les Lillois se comportent comme cela par rapport aux sanctions laxistes, si je n'ai pas le sentiment d'abord que les sanctions étaient totalement laxistes de la part d'Alec Du, elles sont, mais de là à dire laxistes et premier point et deuxième point, les mecs n'ont pas réfléchi ce soir à se dire ah, puisque
ils savent quand même que l'impunité est plutôt de leur côté quoi.
Toujours 0-0, Samuel Duhamel, Félix Bollard de l'hélice, attention.
Ouais, exactement, Félix Bollard de l'hélice, donc 0-0 après 69 minutes, mais on vient d'assister clairement à la plus grande occasion, la plus belle occasion de cette rencontre en faveur du LOSC avec un triple arrêt vraiment de très haut niveau de Jean-Louis Leca. D'abord une frappe d'Iconé et puis après Jean-Louis Leca qui plonge successivement dans les pieds d'Ilmaz puis dans ceux d'Iconé pour empêcher l'ouverture du score. Et on était tout proche là, 69 minutes 0-0.
Antenne ouverte bien évidemment. Alors 6 clubs engagés cette semaine en compétition européenne. Derrière 19h on parlera du Paris Saint-Germain, mais pour ceux qui auraient été déconnectés depuis 5 jours, je rappelle les résultats. Ligue des Champions, Lille, Wolfsburg 0-0, Bruges PSG 1 but partout. Ligue Europe, Lyon sur la pelouse des Glasgow 2-0, Marseille chez les Russes du Lokomotiv Moscou 1 partout, Monaco à domicile 1-0 face aux Autrichiens de Sturmgrass et en Ligue Europe Conférence, Rennes-Tottenham 2 buts partout. Est-ce que ces résultats, madame, messieurs, sont le fruit du hasard ?
Totalement.
Gilles Verdez.
Du hasard et de la non-concurrence ou de la faiblesse de l'adversité. C'est-à-dire que franchement, en tirer des généralités...
Même des mauvais résultats, Gilles.
Oui, oui, exactement. Alors
on va décortiquer après, hein, globalement.
On affrontait des Autrichiens quasi incapables et autres clubs belges très sympathiques, mais néanmoins très modestes à l'échelon européen. Donc franchement, j'ai trouvé que c'était un début de campagne plutôt inquiétant. Et heureusement qu'on n'a pas perdu, parce que face à des équipes comme ça, si on perd en football français...
On n'a pas perdu contre des seconds couteaux. Ouais. On n'a rien gagné. Hein. Cette semaine, on n'a rien gagné. On ne va pas soulever un trophée.
Oui, mais on a tellement craché sur les jeux noirs du football français.
Que 1-0 et Lille qui n'est pas capable de battre Wolfsburg, même s'ils sont en tête du championnat allemand.
Bah, Parlons précisément de la Ligue
Rennes
des Champions.
Qui fait 2-2 contre Tottenham. Moi, je trouve ça plutôt un bon résultat contre le seul gros de cette compétition. Paf, ils tombent dans leur poule et ils commencent la saison avec.
Bon, moi, pourquoi je trouve ça plutôt une question. Si c'est bien,
après, effectivement,
pourquoi je vous pose cette question? C'est parce qu'on a eu des jeudis soirs absolument terribles.
Oui.
Où il n'y avait que des contre-performances et des matchs absolument insipides. Voilà. Et là, donc, 6 clubs et
aucune. Mais vous n'êtes pas à l'abri, Christian. Vous n'êtes pas à l'abri jeudi prochain ou le jeudi de la prochaine Coupe d'Europe. Vous n'êtes pas à l'abri, ça revienne.
Alors, moi, je suis très optimiste, en fait, par rapport à ce que j'ai vu cette semaine. Et je ne peux pas entendre que vous dites que c'est seulement lié à la faiblesse des adversaires. Quand vous prenez, par exemple, un match comme Rangers-OL, certes, les adversaires, ils ont eu du mal à conclure, ils n'ont pas marqué, mais ils n'ont pas manqué d'intensité. C'est que de l'autre côté, l'OL. Oui, mais ils ont quand même été très, très, très agressifs. De l'autre côté, l'OL, ils ont été quelque chose que les autres clubs européens devraient s'en inspirer, solidaires. Ils ont mis de l'intensité, ils ont eu les cages vraiment préservées par un Lopez taille internationale. Mais comment ça, heureusement? Ok, je vais continuer avec les exemples. On continue avec les autres équipes.
Lyon d'abord. Okay. Moi, je suis assez d'accord avec Cindy. Je trouve que c'est une équipe qui a joué plutôt.
C'est l'histoire d'un jeudi, oui, c'est ce qu'elle
trouve constamment. Prenons les matchs après les uns après les autres.
C'est comme ça qu'ils commencent les belles histoires, c'est parfois l'histoire.
Ça ne dit rien sur la saison européenne de la France.
C'est une première tendance. Tu vois que les clubs français ne perdent pas. Et je pense que la saison dernière, il y a un certain nombre de ces matchs qu'ils auraient perdu.
Après, Chelsea a commencé Lyon sa saison en perdant. Ils ont gagné la Champions League.
Les Rangers, faut rappeler une chose, c'est qu'ils étaient en préliminaire de Ligue des Champions. Donc c'est un club qui aurait pu être à l'étage du dessus. Bon, après, ils passent pas parce qu'il y a effectivement des barrages assez. Même Monaco n'est pas passé. Ils se retrouvent en Ligue Europa. Ils sont devant leur public, qui a un public, on sait très, qui les soutient beaucoup.
Et
Lyon d'ailleurs qui joue pas très bien, mais Lyon gagne ce match.
Bon, Lyon a joué plutôt juste, moi, c'est ce que je trouve. Donc faiblesse, c'est la recrue, c'est Boateng qui met pas un pied devant l'autre, mais enfin il a besoin sans doute. Hein.
Et faiblesse, c'est qu'il tape sa femme surtout, qui lui tire les cheveux.
Oui, d'accord.
C'est un scandale. Un scandale. Lyon envoie Marcelo en réserve parce qu'il s'est moqué de Dubois à une causerie et ils engagent un gars qui tire les cheveux de sa femme, qui est condamné à 1,8 million d'euros par la justice allemande, qui n'est pas la justice moldave.
Les dirigeants lyonnais disent qu'ils n'étaient pas au courant.
Le grand club qu'il est, c'est Lyon, ce qui s'est passé, Christian. Et personne n'en parle. On est là à lutter contre les violences faites aux femmes. Et nous, on va applaudir un gars qui tape sa femme.
On ne le savait pas avant. Mais moi-même, j'ai applaudi l'arrivée des Boateng à l'OL. C'est une excellente recrue.
Il est en train de dire qu'il n'aurait pas fallu le faire jouer et le virer alors.
Ou le licencier sur le champ. Christian, il a raison. Il faut le licencier sur le champ. Non, mais honnêtement, si on appelle, il est nouveau condamné. C'est indigne que ce gars-là porte encore les couleurs de quelque club que ce soit.
Je voulais dissocier le tapeur du footballeur,
mais
qui tire les cheveux de sa femme.
Il y a eu d'autres situations avec d'autres joueurs et qui, même en équipe de France, et qui.
Vous parlez des Mendy, non?
Et qui, non, pas Mendy, mais sauf erreur, Coman.
Oui. Il a été condamné aussi pour.
Et il continue à jouer en équipe de France.
Eh ben, j'applaudis pas.
Oui, mais
je ne le dis pas.
Il ne faut pas mélanger la justice civile.
Pour faire 26 jours.
Je suis d'accord sur le fait qu'ils n'auraient pas dû l'embaucher. Ils n'auraient pas dû l'embaucher, effectivement. Je pense que sportivement, c'est pas forcément.
Ils ne le savaient pas.
Oui, alors là, il y a quand même une erreur.
Au
niveau du recrutement, tu dois te renseigner.
Non, mais je trouve ça désolant qu'on soit en train de parler. Je suis désolée, c'est très bien. Et pour les femmes, et je suis femme, et je suis d'accord. Mais on peut revenir à parler, s'il vous plaît, du match. Parce que pour moi, vraiment, l'OL a été vraiment à jouer vers l'avant. Il a fait vraiment un super match. Et on va passer. Concentré sur les gars qui a du moins bien joué.
Que se passe-t-il à Bollard?
Pour le Racing Club de Lens avec un ballon dans la surface de réparation pour Frankowski. Frankowski le polonais face à Ivo Garbi qui ouvre bien son play et le ballon qui va finir dans le petit filet opposé 72 minutes et contre le cours du jeu. Le Racing Club de Lens qui prend l'avantage 1-0.
Tout de suite la publicité, les informations de 19h et le retour d'On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On refait le match.
Le retour d'On fait le match en compagnie de Cindy Colmenares, Xavier Barré, Dominique Sévrac, Gilles Verdez. 20h-23h, ce sera RTL Foot, Eric Silvestro, Xavier Domergue notamment, et avec, bien sûr, le match Saint-Étienne-Bordeaux, commentaire Geoffroy Guichard ce soir, Raphaël Vantard. Le direct, le derby nordiste, si vous nous rejoignez, il y a eu du retard consécutivement à l'envahissement de la pelouse par des supporters lensois à la mi-temps. Match repoussé, retardé, seconde période en tous les cas, d'une trentaine de minutes. Toujours 1-0 pour les 100 et or face au LOSC, Samuel Duhamel.
Exactement, depuis la 74e minute et le but de Frankowski. On a bien cru au 2-0 d'ailleurs, puisque Saïd a fait trembler les filets Wesley Saïd, mais il y avait une situation de hors-jeu de Gaël Kakuta. Le but a donc été logiquement refusé, annulé, mais les supporters lensois y croient comme jamais. On rappelle que ça fait 15 ans que Lens n'a plus battu Lille dans un match de Ligue 1.
Il n'y a pas de débat sur le sujet, sur le but annulé. Kakuta faisait action de jeu, on est bien d'accord? C'est ça? C'est Kakuta
oui, qui gêne. Ouais. Gêne, il est sur la trajectoire de la frappe.
Le gardien est obligé d'annuler le but.
Émission 100% interactive, vous le savez, vos débats, vos échanges font réagir les auditeurs de RTL sur le compte @RTLFoot, Baptiste Durieux.
Et notamment sur la Coupe d'Europe, Tristan nous dit non, ce n'est pas du tout un hasard. Les résultats auraient pu être beaucoup plus flatteurs pour les clubs français. Lille, Marseille, Rennes et Paris auraient dû gagner dans le contenu. Pour la plupart, c'était bon et cette invincibilité est logique. Pas de hasard non plus pour Axel. Il nous dit ce sentiment que chaque club va jouer la compétition à fond, peut-être grâce aux entraîneurs étrangers pour qui la Coupe d'Europe est un objectif important. Je pense à Peter Bosz, à Nico Kovac, à Sampaoli. Je vois d'ailleurs, nous dit Axel, au moins un de ces trois clubs dans le dernier carré. Et message de Simon, complètement aux antipodes de ce que je viens de vous dire. Hasard complet, on fera un vrai bilan à la fin des phases de groupe, peut-être. En tout cas, moi, je n'y crois pas, je n'y crois plus du tout.
Mais avant la Ligue 2, c'est peut-être un argument qui vous a échappé, madame, messieurs, effectivement. C'est les entraîneurs étrangers maintenant qui.
Le seul qui n'était pas là avant, c'était Peter Bosz. Oui. Sinon, les autres, Nico Kovac, Sampaoli.
Oui, il faut que ça infuse.
Les Kovac, il doit gagner avec des champions chaque année. Hein. Ou Laurent Blanc, quand on est entraîneur du PSG, l'ambition, c'est de gagner avec des champions. Je crois pas que. J'espère que Bruno Genesio, il a toujours voulu aller loin en Coupe d'Europe. J'espère que ce n'est pas dû au fait qu'on soit étranger. Si c'est ça, ça serait terrible.
Ouais. Genesio, le Stade Rennais.
Oui,
on va en parler. Moi, je me méfie. Hein, parce que souvenez-vous du Stade Rennais et de ses matchs en Ligue des Champions la saison dernière avec Krasnodar, etc. Du bon Stade Rennais. Ça s'est terminé de façon
l'autre boudin.
Piteuse. Bah,
vous êtes d'accord avec nous alors?
Ils ont pris un
ce
point.
Ce sont une succession de mauvaises performances des clubs français.
Non, ça c'était la saison dernière.
Vous dites méfions-nous.
Non,
puisque,
méfions-nous. Mais moi je reste très prudent.
Commencez à vous dire. Ah oui.
Non, j'ai pas c'est la première journée qu'on peut pas tirer.
C'est vrai, c'est vrai. Vous êtes l'arbitre des débats. Excusez-moi.
Je pose la question.
Excusez mon impudence.
Un débat sur le PSG, on peut pas tirer une règle au bout d'un match, une journée. C'est pas possible.
J'aurais pas dû poser cette question, Gérard. La Ligue 2, la 8e journée. Les matchs ont démarré depuis une dizaine de minutes, Baptiste.
5 minutes de jeu pour être tout à fait précis. Un seul but a été marqué par l'AC Ajaccio, qui d'ailleurs est deuxième du classement à l'heure actuelle. 1-0 donc face à Rodez. 0-0 sur les autres. Pelouse, on rappelle les affiches, Nancy-Le Havre, Dijon-Dunkerque, Niort-Guingamp, Bastia-Caen, Quevilly-Rouen, Auxerre, Pau-Valenciennes et Nîmes-Amiens. Plus tôt dans la journée, c'est Toulouse, le leader qui s'est imposé 4-1 face à Grenoble et défaite du Paris FC 2-0 face à Sochaux.
Merci Baptiste. Lille, parlons-en, non pas face au Racing Club de Lens, mais de sa prestation européenne. On peut nourrir quand même les Lillois une certaine forme de frustration tout de même. Il y a eu un manque de justesse, de réalisme, de lucidité sur le plan technique également, alors que Lille avait les moyens, franchement, avait les moyens de s'imposer face au leader de la Bundesliga.
Oui, donc c'est une contre-performance.
Frustration.
Bah, moi, je dis contre-performance face à un leader de Bundesliga qui n'a rien montré. Ok, le problème, c'est qu'on se réfère aux prestations d'avant ce match-là calamiteuse des Lillois. Et pourtant, j'aime bien leur entraîneur. Mais là, sur cette confrontation, c'est un mauvais résultat. C'est une poule dans laquelle il faut gagner les rencontres à domicile. Donc ce 0-0, pour moi, il est non pas frustrant, mais
français,
déceptif.
Ça. C'est très français quand vous dominez, que vous ne marquez pas, que vous ne gagnez pas le match. Ça, c'est le football qu'on veut plus voir, ça. Moi, je préfère l'équipe de France championne du monde, avec son jeu clinique, chirurgical à Didier Deschamps. Je veux pas savoir si elle a gagné, si elle a bien joué, pas bien joué. Voilà, on va nous expliquer pendant des années que les Croates étaient meilleures. Je veux vous dire, je m'en fous.
Ça, c'est l'éternel débat qui vous a opposé la saison dernière aux romantiques du football ici présent dans cette.
Résultat. Mais non, mais je veux bien que Lille, c'est soit super.
Mais là, pour le coup, il y a ni l'un ni l'autre.
Bah, ils ont retrouvé leur jeu. Voilà. Ils ont retrouvé leur jeu, mais ça m'intéresse pas. Ils ont fait 0-0.
Oui,
on a vu un bon match. On a vu un bon match. Ils marquent pas. Bon, ok, ils marquent pas, mais ils marqueront plus sûrement dans les prochains matchs en jouant de cette façon qu'en bétonnant derrière, en attendant éventuellement. Une ça. Opportunité. Bah si, on sait que plus tu te procures d'occasions de but, mathématiquement, plus tu as de chances d'en marquer.
Ricardo, donc, il n'y a pas le football comme ça, l'entraîneur de Bordeaux.
Oui, bah, d'ailleurs, on ne sait plus où il est aujourd'hui. Il a disparu de la circulation.
Le jeu de Lille vous a plu?
Moi, ça m'a plu.
Moi, j'ai trouvé que c'était un bon match.
C'était dominateur. Pour moi, c'est un bon match. Et quand vous parlez des scores et vous vous dites, oui, ils ont perdu, ils auraient dû gagner, etc., n'oubliez pas que Chelsea, la saison dernière, ils ont perdu leur premier match. Regardez ce que ça a donné à la fin. C'est trop tôt.
pour donc commencer. Vous voulez dire que c'est bien de commencer
Non, ne me faites pas dire. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas les juger justement à ces matchs. Moi, j'ai trouvé que l'attitude était la bonne. Ils étaient dominateurs. Ok, ils ont manqué de réalisme. Ok, ils n'ont pas marqué. Mais ils commencent bien.
Mais vous parlez d'attitude, vous dites qu'ils étaient dominateurs, vous disiez la même chose pour Lyon, mais heureusement que les joueurs rentrent sur le terrain pour gagner un match avec une attitude, un engagement.
Mais ça n'est pas toujours l'été, les cas des Français,
je suis désolé. Mais forcément sentiment avec le PSG.
Quelle stratégie, quelle vision d'ensemble pour les clubs? On bat les Rangers, on fait 0-0 contre Wolfsburg.
Non, mais là on parle de Lille, hein. On parle de Lille.
0-0 contre Wolfsburg.
Oui, dans une poule, il y a Salzbourg et Séville.
Eh ben,
rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Ils ont eu, comme il y a 3 ans, ils se sont retrouvés avec Valence, Chelsea.
Lille avait perdu son premier match à chaque fois.
Oui, oui.
La France gagne son premier match à l'Euro, elle n'est pas devenue championne d'Europe, je crois, non? Il me semble qu'elle était sortie.
Non, mais je vois ce que veut dire Gilles. Il y a une frustration tout de même par rapport aussi au jeu finalement de l'adversaire. Parce que quand on est leader de la Bundesliga, voilà. On doit offrir autre chose que ce qu'on a pu voir.
C'est un leader qui ne va pas le rester.
Vous vous souvenez de Marc Van Bommel lorsqu'il était joueur?
Ah oui, oui. Il mettait la semelle, oui, bien sûr, on sait. Mais
on ne peut pas dire que le jeu qu'il inculque ou qu'il initie à ses joueurs, tu n'as pas été quand même...
Bah, Van Bommel, ce n'était pas un artiste.
Oui, on est d'accord.
Son équipe, elle est un peu à son image, effectivement. Donc, pas très spectaculaire, non, ça c'est sûr. Maintenant, Wolfsburg s'est retrouvé à 10, il faut le rappeler. En deuxième période, donc pour eux c'est une super affaire que de partir sans une défaite parce qu'ils sont quand même fait bien bouger.
Bon, frustration Olympique de Marseille, là aussi on est d'accord pour dire qu'il y a une frustration.
Oui, terrible.
1-0 pour Marseille, le but égalisateur à quoi, à la 89e minute.
En fait c'est surtout qu'ils sont très bien commencé ces matchs et ils étaient également vers l'avant. En fait, c'est beaucoup les Français dans ces matchs-là. C'est vrai que ça revient à chaque fois à ce que je dis, mais c'est la réalité. Ils ont joué vers l'avant, il y avait de l'intensité. Sampaoli, on voit vraiment qu'il y a un gars comme Guendouzi, il est devenu vraiment beaucoup meilleur depuis que Sampaoli est là. En tout cas, il apporte énormément. Et puis, ce qui est dommage, c'est que plutôt que de profiter de l'occasion où l'adversaire se retrouve à 10, ils sont à 11, de doubler la mise, c'est généralement ce qu'on doit faire dans cette situation-là, il laisse échapper. Mais je trouve que globalement, c'était un très bon match des Marseille et qu'il faut continuer dans cette ligne-là.
Et qu'est-ce qui se passe, Gilles, avec le Sampaoli Time alors? Parce que d'habitude, c'était eux qui inversaient les scores et c'est ce que vous nous expliquez, Gilles. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Mais alors, on y reviendra parce que un entraîneur qui met son meilleur joueur sur le banc, il condamne son équipe avant même le match.
Sampaoli a-t-il mis fin à la carrière de Steve Mandanda?
C'est une honte.
Réponse après la page de publicité, 19h15, c'est On fait le match et nous sommes ensemble jusqu'à 20h.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
La suite d'On refait le match, toujours en compagnie en studio de Cindy Colmenares, de Dominique Sévrac, de Gilles Verdez, de Xavier Barret. Et puisque vous aimez les coulisses des préparations de nos émissions, autant vous le dire tout de suite, Baptiste Derieux est parti aller préparer le RTL Foot 20h-23h en compagnie d'Eric Silvestro. Donc il m'a lâché en race campagne. Et je vais quand même vous donner quart d'heure
belle
par quart d'heure.
Belle mentalité quand même.
Oui, mais ça mérite.
C'est un homme de talent, il le mérite.
Non, mais ça mérite. Un homme de talent, il le mérite. Messi, Neymar, quand ils font des mauvais match, on leur dit. Et on va en parler dans un instant. Donc ça peut être un homme de talent, Baptiste Durieux, mais on fera un petit débriefing quand même après le match. Alors je vous donne, tout ça pour vous dire, je vous donne quand même les résultats, quart d'heure par quart d'heure de la 8e journée du championnat de France de Ligue 2. Nancy-Le Havre, toujours 0-0. Dijon-Dunkerque, 0-0. Niort-Guingamp, 0-0. Bastia mène devant Caen par 1-0. L'AC Ajaccio mène à Rodez par 1-0. Quevilly-Rouen et Auxerre, 0-0. Pau mène devant Valenciennes par 1-0. Alors que cet après-midi, Sochaux a battu le PFC 2-0 et que le TFC Toulouse Football Club a battu Grenoble sur le score de 4-1. Sampaoli a-t-il mis fin à la carrière de Steve Mandanda?
C'est Paul Lopez qui a mis fin à sa propre carrière, je pense, après les matchs.
596 matchs ou 400, je me trompe de 100 matchs. C'est 596 matchs, je crois.
596, absolument.
La réponse.
Non mais franchement c'est une honte ce que fait Sampaoli. Alors je pense qu'on nous cache des choses, soit des affaires contractuelles ou soit des engagements pris ou soit je ne sais, des affaires financières opaques sans doute, mais sur le terrain ça ne se justifie absolument pas. Mandanda c'est l'emblème de l'OM, il est intouchable, il est dans l'équipe de France, c'est le troisième meilleur gardien français aujourd'hui, donc là c'est une injure faite à Mandanda. Ça va retomber sur le dos de Sampaoli parce que le public ne va pas l'accepter, Mandanda ne va plus être ce leader charismatique. Quelle erreur de Sampaoli, mais quelle erreur.
On va revenir sur l'angle sportif, mais il y a quelque chose qui m'interpelle. On nous cache des affaires.
On nous cache des choses. Vous avez parfois des joueurs qui sont assurés d'avoir tel nombre de matchs dans leur contrat, et les entraîneurs parfois les font jouer pour qu'ils atteignent un certain. On le sait très bien. Donc là, il n'y a aucune raison sportive. Donc c'est une raison forcément opaque.
La raison sportive, non. C'était Paul Lopez qui
Non, il n'était pas. Alors Paul Lopez n'a pas été à la hauteur d'un Mandanda dans les matchs, en tout cas en Champions League. Ça c'est clair et net.
C'est l'avenir de l'Olympique de Marseille, 26 ans.
On peut parler d'âge, mais pour moi l'âge ne fait pas tout, parce que sinon dans ces cas-là Navas devrait aussi partir et l'avenir. Du coup c'est Donnarumma et pour l'instant Navas il est très bon.
On en parlera, mais c'est un autre débat. Ça.
Non, mais pour revenir au sujet par rapport à Mandanda, moi ce qui m'inquiète beaucoup dans ce type de situation, on les voit régulièrement dans certains clubs. C'est quand l'entraîneur se met à changer cette place qui, on le sait, la place des gardiens de but n'est pas la place de n'importe quel joueur. C'est une place où vraiment il faut rassurer ces joueurs-là. C'est intéressant pour lui-même, mais aussi pour la défense. Donc pour moi, mettre Paul Lopez, qui n'était clairement pas au niveau qu'il fallait pour ces matchs-là, et en plus sortir Mandanda, qui n'avait donné aucune raison de les sortir, n'a aucune explication.
Vous êtes d'accord?
Et je suis pour Sampaoli. Je trouve que c'est un très bon entraîneur, qu'il a sublimé d'autres joueurs comme Guendouzi. Vraiment, c'est génial. Mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé.
Je sais que les entraîneurs ont des marottes. Et c'est les gardiens. Laurent Blanc, il voulait absolument Kevin Trapp pour relancer. Il a mis Sirigu à la poubelle. On sait que Peter Bosz a essayé de faire venir Onana. Bon, malgré le fait qu'il était suspendu, tout ça, bon, l'affaire s'est pas faite.
Puis surtout, Lopez, là, fait un bon début de saison.
Oui, mais Lopez. Il joue, alors ça plaît, mais dès qu'il touche le ballon avec les pieds, c'est une calamité.
Lopez, c'est le Mandanda de Lyon, un peu. C'est un peu une figure aimée par le peuple lyonnais. Voilà, il est là depuis longtemps. Bon, bah, lui, il était prêt à le mettre à la poubelle aussi.
Non, mais il a fait une saison moyenne précédemment. Mais oui. Là, il fait un bon début de saison quand même, Lopez.
Quoi, quand ils sont en confiance, ça change. C'est vraiment important pour les gardiens.
Il n'y a que le PSG qui peut se permettre d'avoir deux gardiens et pas savoir qui est le.
Les meilleurs au monde.
Voilà. Non, mais il y aura une gestion. On va en parler du PSG dans un instant, mais il y aura une gestion.
Un jour, il faudra trancher quand même. On ne peut pas continuer comme ça.
Donnarumma.
À votre avis, entre Icardi et Mbappé, qui c'est qui est titulaire, qui c'est qui est remplaçant?
Non, mais
Icardi pense qu'il sera devant Mbappé.
On parle des gardiens de
but. Non, mais là, tu prends un exemple, Dominique.
Les gardiens, c'est pareil.
Icardi, tu ne peux pas comparer actuellement. Je parle actuellement.
Il y a deux neufs. Il y a deux neufs. Tout le monde sait que ça serait Mbappé le titulaire.
Ah, bah oui, mais Icardi, la question ne se pose même pas actuellement.
On termine sur Marseille, l'Olympique de Marseille. Alors, le test sera dans 12 jours. Galatasaray.
Mais si on termine par la bola sale, je voudrais comprendre pourquoi Sampaoli, là encore c'est une question et j'adore cet entraîneur, pourquoi il sort Guendouzi alors qu'il était en train de faire un excellent match, que c'est un gars
parce qu'il pense qu'ils vont gagner 1-0 et qu'il fait tourner, c'est tout. Il pense qu'ils vont gagner 1-0. Effectivement, il concède l'égalisation sur la seule occasion du Lokomotiv Moscou qui est à 10. Donc vraiment, c'est pas de bol. Et d'ailleurs, Paulo Lopez sur cette action, il est pas terrible.
Et c'est terminé à Félix Bollard de l'Élysée, Samuel Duhamel.
C'est terminé sur la victoire des Lensois, 1-0, le but du Polonais Frankowski à la 74e minute. Ça faisait 15 ans que les supporters sans et or attendaient une victoire dans un derby face au LOSC. Et bien ça y est, elle est arrivée, elle est globalement méritée cette victoire, même si évidemment on se rappelle de ce qui s'est passé à la mi-temps avec ces incidents, ces échauffourées, ces débordements. Mais voilà, c'est la fête, ça Bollard désormais.
Réaction débrief évidemment à partir de 20h, Samuel Duhamel dans RTL Foot.
Terrible semaine pour Lille, hein. Un point pris dans les deux matchs les plus importants de la saison, le derby et l'entrée en Ligue des Champions, vos supporters qui signalent en essayant de casser la figure des familles lensoises. Terrible semaine pour Lille. Elle va peut-être laisser des traces.
Je surtout, me souviens de la question qui est d'un des débats de On refait le match, c'était samedi dernier, et donc c'était derrière une défaite, puisque c'était vendredi soir de mémoire, moi qui ai une mémoire de poisson rouge, c'était une défaite de Lille à Lorient de buts à 1. Et la question c'était de savoir s'il fallait être patient avec Jocelyn Gourvennec.
C'est pas la réputation de l'étang. L'étang n'est jamais patient. Il y a à Rennes et à Paris. Moi, je l'ai connu à Paris. J'ai vu ce qu'il a fait à Rennes. Il aime bien virer les entraîneurs assez vite. Donc, ça sent pas bon pour Monsieur Gourvennec.
En tout cas, c'est même lui qui l'a choisi. Hein.
Ouais, mais c'est une semaine négative quand même. C'est une semaine qui pose vraiment question. Et c'est vrai que moi, je suis grand fan de Gourvennec, mais sa situation devient, pour moi, déjà largement fragilisée.
Mais alors, Jocelyn Gourvennec n'a pas franchement réussi à Bordeaux.
Non, mais je trouve que
il a réussi à Guingamp pour remonter un club de Ligue 2 en Ligue 1.
Mais il a une vision.
La philosophie de jeu, les projets de jeu. Mais à un moment donné, il faut les appliquer.
J'ai dit vision seulement. N'allons pas jusqu'à philosophie.
Après, ce qui est étonnant, c'est qu'il a aligné le même 11 de départ. Contre Lens, donc pour ce derby du Nord, que celui qu'il avait aligné en Ligue des Champions contre Wolfsburg. On sait qu'il y a des joueurs âgés dans cette équipe, bien sûr, Burak Yılmaz le premier, José Fonte derrière. D'ailleurs, c'est José Fonte qui commet l'erreur, qui permet à Przemyslaw Frankowski de marquer pour Lens. Donc, est-ce qu'il aurait pas dû faire tourner un petit peu
le
son
bilan,
effectif
le banc, le bilan non plus n'est pas exceptionnel, le banc non plus. Hein,
non, effectivement, il a des moyens limités, on le sait. Ils ont dû, bon voilà, Lille n'a plus d'argent, donc ils font avec ce qu'ils peuvent. Mais on a quand même chez le champion de France un effectif qui me paraît un peu supérieur à la plupart des autres clubs de Ligue 1, PSG et Monaco et OM Lyon mis à part. Donc ils ont normalement matière à faire mieux que ce qu'ils sont actuellement.
Il y a des joueurs qui font pas les efforts qu'ils faisaient la saison dernière aussi. Il y a des joueurs qui ont été qui se sont pas remis en condition. Oui, voilà, il y a des joueurs qui n'ont pas digéré.
Bon, mesdames, messieurs, il nous reste 5 minutes. On a beaucoup de retard pour parler des Monaco. Autres clubs européens. Et derrière 19h30, on va parler du PSG.
Ah,
bien sûr. Mais Monaco quand même. Hey, Monaco, une victoire 1-0, était en tête de son groupe déjà.
Contre Graz.
Oh non, mais alors si vous faites la gueule,
non, mais Monaco, Monaco n'est pas en Ligue des Champions. Moi, je suis extrêmement déçu. Non. C'est pas possible. Oui, non, son destin, c'était la Ligue des Champions cette année. Après, ça, c'est 6 mois de janvier à juin en championnat. Il y avait un tremplin sur lequel Niko Kovac n'a pas réussi à surfer pour les qualifier en Ligue des Champions. Il y a un gros problème. Là, maintenant, ils peuvent jouer premier contre Grasse. On parlera de Monaco quand ce sera en demi-finale.
Bah non, parce qu'ils ont dans cette poule, il y a la Real Sociedad et le PSV Eindhoven. Donc, c'était important de commencer par une victoire contre l'équipe a priori la plus faible de ce groupe. Et puis derrière, on va voir. Le PSV Eindhoven, Real Sociedad, c'est des clubs qui ont déjà joué la Ligue des Champions. Donc, cette Ligue Europa, elle est plus solide parce qu'elle est resserrée. Il n'y a plus que 8 poules où il y en avait 12 jusqu'à la saison dernière. Il n'y a plus que 8 poules. Donc, c'est une mini Ligue des Champions avec bien sûr pas le même
mini quand même.
Oui,
hein.
Oui, mais
il y a
quand même 4 clubs qui ont été champions d'Europe qui disputent cette Ligue
Europa. Donc quand vous citez la poule de Monaco, ça fait pas rêver quand même. Donc ils se retrouvent là.
Mieux que contre Lens et l'OM déjà, mais pour revenir par rapport à ces matchs-là, pour moi ils se sont procurés beaucoup d'occasions Monaco, ils ont réussi à déstabiliser quand même la défense. Et moi, ce qui m'inquiète par rapport à cette équipe, et je trouve que Kovac, il nous a montré que c'est un très bon coach, etc., c'est son côté prévisible. Parce qu'on a toujours l'impression que dans ce système, même si là, Lyon, s'il était complètement remanié dans ces matchs-là, on a l'impression que c'est toujours à peu près la même chose. Il compte toujours sur les mêmes joueurs, les milieux notamment. Donc, en fait, ça commence. Moi, ça m'inquiète par rapport à la Real Sociedad, parce que c'est les matchs qui arrivent après, si je me trompe.
Oui, et puis il y aura Eindhoven après.
Donc ça m'inquiète par rapport à ces matchs, parce que si l'adversaire effectivement commence à très bien lire dans son stratégie, qu'il innove pas, du coup on va se retrouver très vite dans les pétrins.
Moi, vous savez, j'ai une vision européenne. J'adore voyager en Europe, on est quand même en train de se réjouir d'avoir battu des Écossais et des Autrichiens. Mais où va-t-on, quoi?
À ma gauche,
on a
Gilbert
battu des Écossais, des Autrichiens, les déclinistes. Non mais arrêtez.
Vous savez que si
Graz, ils ont gagné combien de Ligue des Champions, combien de Coupe d'Europe?
On ne tire pas de conclusion d'un match.
Dans ces cas-là, on ne fait pas d'émission parce qu'on sait juste que tous les adversaires sont toujours nuls.
Si Monaco, avait été en Ligue des Champions à la place du Shakhtar Donetsk, il serait allé jouer où?
Vous êtes un décliniste, Gilles Verlaine.
Au shérif Tiraspol, qui d'ailleurs a gagné.
Qui a gagné.
Vous auriez eu un superbe voyage, effectivement.
Qui a gagné.
Quelques secondes de Stade Rennais.
Rayon prestige comme adversaire, là, ça se pose là.
Quelques secondes de Stade Rennais, on en a parlé tout à l'heure. Face à Tottenham, avec pas mal de titulaires absents, là aussi, quand même.
Il y avait Kane en face, il y avait quand même des bons joueurs en face.
Pas une équipe type non plus.
Ils n'étaient pas très bons ces soirs-là, mais il y en avait. C'était pas mal.
Ma question est simple. Bilan encourageant ou fruit du hasard, globalement?
Fruit du hasard. Bilan très déceptif.
Ok.
Fruit du hasard. Fruit du hasard.
Non, encourageant, parce que la plupart des adversaires étaient les adversaires les plus durs de leur poule, à part pour le PSG.
C'est Xavier Barré et c'est Nicole Ménarès.
Il y a les hasards, mais pour qu'il y ait les hasards, il faut aussi qu'ils soient bien préparés. Donc pour moi, il y a les deux choses qui jouent.
On va tourner une page de publicité, on va parler du sondage mystérieux de la FIFA, mais également du Paris Saint-Germain. Demain soir, grande soirée, RTL Foot 20h-23h, avec tout le service des sports pour le match Paris Saint-Germain-Lyon. Et cette question pour revenir également sur la perf, ou plutôt contre-perf, vous allez me le dire, de cette semaine face à Bruges, à Bruges. Alors tout le monde tombe dessus, sur qui? Sur Mbappé, sur Messi et sur Neymar. Est-ce qu'on ne peut pas être un peu patient dans ce monde qui va trop vite parfois? Non, Dominique, c'est vrai, vous faites les gros yeux. Publicité.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
La suite d'On refait le match avec Cindy Colmenares dans ce studio. Xavier Barret, Dominique Sévrac et Gilles Verdez. Toujours sans Baptiste Durieux qui vous prépare un joli RTL foot. Mais ce n'est pas une bonne raison entre 20h et 23h et notamment l'intégralité de Saint-Étienne-Bordeaux. L'occasion pour moi de vous donner donc les scores après une demi-heure de jeu des matchs comptant pour la 8e journée de Ligue 2. Nancy-Le Havre, toujours 0-0. Dijon-Dunkerque, toujours 0-0. 0-0. Niort mène devant Guingamp par un but à 0. Bastia mène devant Caen toujours par un but à 0. Ajaccio toujours mène à Rodez par un but à 0. Quevilly-Rouen 0-0 face à la JOCR. Pau-Valenciennes un but partout et Nîmes a fait le break et mène face à Amiens sur le score de 2 buts à 0. Cet après-midi, victoire de Sochaux sur le Paris FC 2-0 et de Toulouse face à Grenoble 4 buts à 1. Alors on nous reproche assez souvent, que voulez-vous, de parler trop souvent, que voulez-vous, du Paris Saint-Germain, de démarrer toutes nos émissions, que voulez-vous, du Paris Saint-Germain, à 19h30, donc après une heure dont fait le match, nous allons maintenant, effectivement, ouvrir le débat du PSG. PSG qui n'a pas fait un bon match cette semaine sur la pelouse de Bruges, ça manque d'automatisme, ça manque de conditions physiques, ça manque de complémentarité, ça manque peut-être de coaching également, ça a manqué en fin de match à Mbappé qui s'est blessé, dont on ne sait pas s'il jouera, sachez-le, demain soir contre Lyon. Pochettino cet après-midi en conférence de presse est resté très mystérieux.
Mais évasif. Le communiqué du club est plutôt positif.
Plutôt positif.
En disant que l'évolution est positive justement. Donc il y a une petite chance, il y a peut-être 30%, 40%.
On aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais on laissera la place à ces préparatifs du PSG Lyon à partir de 20h avec Eric Silvestro et Xavier Domergue. Est-ce qu'on ne fait pas preuve d'impatience avec Neymar qui n'était pas en condition pendant pas mal de temps, avec Messi qui a besoin de trouver ses marques, et avec Mbappé dont on a l'impression qu'il somatise un peu?
Non mais totalement, mais en plus j'ai l'impression qu'on reproduit les mêmes erreurs d'un mois à l'autre. On nous rajoute Benzema en équipe de France, et Dieu sait si j'étais content que Karim Benzema revienne en équipe de France. On l'associe à Griezmann et Mbappé, on dit bah, c'est bon, ça va faire but sur but, la meilleure attaque du monde, ils vont être champions d'Europe. Bon, je crois que ça va être éliminé en 8e de finale, je crois, contre la Suisse, qui elle-même n'est pas une grande nation, une nation majeure du jeu. Voilà, vous pouvez pas des joueurs qui n'ont jamais joué ensemble, qui ont beau être fantastiques, les grands joueurs sont faits pour jouer ensemble, certes, mais pas de manière automatique. En revanche, et là vous l'avez dans votre préannoncé, vous l'avez dit, il y a une erreur de coaching majeure. 5 matchs avant qui précèdent ce match à Bruges, Pochettino joue en 4-4-2, et tout d'un coup, il joue en 4-3-3. Bon, ah bon. Le sixième match, il le joue dans un système différent. Et donc, il donne un repère à son équipe. Et après, il en change complètement. Et il met Messi à droite, où il ne joue plus depuis des années.
Je pense qu'il a pas
dû regarder les matchs de Barcelone. Messi n'est plus un attaquant de couloir. Messi est un attaquant axial.
Messi à droite, Neymar à gauche, Mbappé au centre.
Alors, ça, il faut absolument que je revienne sur ça, parce que pour moi, c'est ça les points les plus importants par rapport à cette défaite. Alors, évidemment qu'il y avait des problèmes.
Match nul,
par exemple. Pour moi, c'est une défaite. Pour moi, il y avait un problème du PSG, des transitions défensives. Ça, tout le monde le sait. Ramos, vraiment, il est arrivé pour ça et il manque. Mais moi, ce qui m'inquiétait plus, c'est les positionnements des Messi, parce qu'on le sait, et ça, c'est vraiment tous les génies de Pep Guardiola, il l'a mis comme un faux neuf, en fait, il l'a mis au centre, et c'est là où Messi peut se faire plaisir. Et c'est d'autant plus vrai que quand on voit les matchs de Bruges, quand je vois les milieux, les centraux de ces matchs-là, bah, c'était pas les plus géniaux. En fait, si vous voulez, Bruges, ce qu'ils ont exploité, c'était plutôt les latéraux, ils se sont fait plaisir avec Hakimi, qui vraiment... n'était pas dans son meilleur jour. Mais si vraiment ils avaient mis Messi au centre pour que derrière les milieux puissent les servir, qu'ils puissent marquer, franchement, ça aurait été...
Alors, vous me rappelez le même débat qu'on avait avec Didier Deschamps, avec la richesse d'avoir 3 bons joueurs, leur positionnement, sans qu'ils ne se marchent sur
les
pieds.
Les derniers, le meilleur buteur du championnat italien, c'est Cristiano Ronaldo. Le meilleur buteur du championnat espagnol, c'est Messi. Le meilleur buteur du championnat français, c'est Mbappé. Ce sont des joueurs qui jouent dans l'axe. Il n'existe pas sur Terre un meilleur buteur d'un championnat qui joue sur un côté. Ça n'existe pas. On peut pas jouer sur le côté droit ou le côté gauche.
Messi,
le meilleur
Messi à Barcelone, il était positionné à droite au début et puis il rentrait systématiquement.
Il y a 10 ans.
Mais c'est un faux neuf.
Il est né 10 ans, il y a 15 ans.
Même ça, c'est arrivé parfois qu'il soit repositionné à ce poste-là ces derniers temps. Mais effectivement, mais on l'a vu d'ailleurs en deuxième mi-temps, il vient délibérément tout le temps dans l'axe du jeu. Et c'est là où d'ailleurs il est le plus influent.
Bah oui, c'est là où il y avait des occasions.
On est d'accord. Maintenant, je pense, c'est pour ça que j'étais un peu surpris par tes propos, Dominique Cédrac, je pense quand même que Messi, il a dû en parler un petit peu avec l'entraîneur, avec Pochettino. Ils parlent la même langue déjà, donc je pense que s'ils ont conclu ça, ils ont dû en parler ensemble avant.
Et maintenant, moi, ce que je sais, maintenant, Messi, il est très modeste, il ne revendique rien. Autant Zlatan, il est arrivé avec une espèce de rat.
Contrairement à ce qu'on dit, c'est la vérité.
Moi, ce qu'on me raconte au camp des loges, c'est quelqu'un de très discret, qui parle assez peu, qui est entre guillemets dans son coin. Il a des potes, Paredes, Neymar, mais qui ne la ramène pas. Et je suis pas sûr que pour le premier match de Ligue des Champions, où on lui a dit il y a Neymar, il y a Mbappé, il ait dit à Pochettino, je sais pas s'il se voit ou se tutoie, tu sais, j'ai pas trop envie de jouer à droite, je suis pas sûr qu'il ait fait ça.
La question de base, c'est que ce problème est insoluble. Neymar veut rester scotché à gauche. Messi doit jouer en faux neuf, en tout cas, en meneur de jeu, en neuf et demi, on va dire. Mbappé ne veut pas jouer à droite.
C'est le problème.
Qu'est-ce qu'on fait?
Christian. C'est le problème parce que le foot, c'est l'équilibre. Là, avec des joueurs comme ça, vous pouvez avoir un déséquilibre génial qui vous fait gagner un match. Mais pour gagner sur toute une saison, il faut être équilibré. Et moi, la problématique de ce trio, c'est que je ne vois pas qui va bosser, qui va travailler sur ces trois joueurs.
Dans le repli défensif
et dans l'organisation. Lequel des trois va dire aux autres, OK, restez devant, moi je me replie. Si aucun des trois, tout au long de la saison, entre guillemets, ne sacrifie pas, ne commence pas à bosser pour l'équipe avant de penser à gagner le Ballon d'Or, là, le PSG ira quand même au-devant de
Messi. Messi ne sera jamais au Paris Saint-Germain, ce qu'il n'a jamais fait pendant 15 ans.
Mais Messi ne le fera pas, Mbappé le fait peu. Est-ce que Neymar va le faire pour ses...
Il a couru 1 km de plus que Messi.
Non, 10 km 2, il a couru.
10 km 2
de plus que Messi. Donc Neymar va sacrifier.
Messi, 8 km 3, donc 2 km 2.
Moi, c'est ça mon inquiétude.
Messi, la saison dernière, il courait 6 km par match. Là, il en a couru 8.
Oui, mais ce qui est quand même. Il y a courir et courir. Je vous lance, je mets une pièce là-dedans, mais il y a courir et courir. Il y a courir, vous voyez ce que je veux dire.
C'est pas Griezmann et Benzema qui font des replis défensifs, du pressing, etc.
Mbappé,
c'est soluble comment?
Mbappé a couru moins de 5.
Il faut attendre le retour peut-être de Di Maria. Quand il sera pas suspendu,
bien, là,
il peut y avoir
demain Di Maria revient.
Non, mais je veux dire, en Ligue des Champions, il est suspendu.
Il a suspendu 3 matchs.
Il y a le 3-5-2. Vous pouvez mettre Messi et Mbappé tout seul devant avec Neymar en 10 derrière en 3-5-2, défense à 3, Kimpembe, Marquinhos, Ramos, avec des latéraux Hakimi et le petit Nuno Mendes, le nouveau portugais.
Qui était très bon.
On a vu l'entrée.
Nuno Mendes était très bien marqué. Oui.
Il y a une telle différence avec Abdou Diallo. Ça, c'est incompréhensible.
Sans doute. La défense à 3, sans doute. Ouais.
Il n'avait jamais joué encore de l'ami Pochettino. Comment vous pouvez continuer avec Abdou Diallo? Parce que le but est venu de la gauche. Mais toutes les attaques de Bruges sont venues de la droite, sur le côté d'Abdou Diallo. C'est insupportable, c'est pas latéral en même temps.
Et autre petite incise en forme d'interrogation que vous me autoriserez peut-être à faire. On avait dans une émission précédente évoqué cette question. Est-ce que certains joueurs ne sont pas venus lors de ce mercato au PSG en pré-retraite ou en retraite anticipée? Moi, je veux bien tout ce que vous voulez, mais Wijnaldum, là, il se prépare pour disputer des matchs intéressants avec la sélection néerlandaise. Il n'est pas du tout... retraite anticipée dans la tête. Est-ce qu'il n'est pas venu pour profiter de Paris, Wijnaldum? Vous avez vu son début de saison, c'est calamiteux, c'est pas le même gars.
Il a été baladé partout.
Ramos, dans quel état est-il? Je trouve qu'il y a quand même il y a quand même pas mal d'interrogations. Alors, je tire pas la sonnette d'alarme, mais il y a des questions.
En fait, s'il y a une solution du côté du PSG,
et
c'est quelque chose qui est rassurant.
C'est
ça, c'est la défense, c'est l'arrivée des Ramos. Certes, Wijnaldum, il n'a pas fait son meilleur match. Il va bientôt se rétablir.
Ils ont joué 7 matchs, le PSG, 7 matchs officiels, toutes compétitions confondues, et il n'a pas eu une seule fois son effectif au complet.
Pas eu des mauvais joueurs quand même.
Il vient de les récupérer. Nuno Mendes, il n'avait pas joué un seul match. Le trio n'avait pas joué ensemble, il est sur le sporting, il ne peut pas jouer au sporting, il n'était pas toujours titulaire.
Il rentrait une séquence internationale, il était en forme, bien sûr,
il a 18 ans, il a 19 ans, donc
il n'y a pas d'âge pour jouer.
Pour jouer la Ligue des Champions, Pochettino, il a préféré mettre un joueur qui avait plus d'expérience.
C'est pas la finale Ligue des Champions.
Bruges a prouvé justement que c'était une équipe qui était capable de les bouger,
et résultat, Pochettino est déjà dans la lessieuse, quoi, je veux dire.
Mais parce que ça fait 6 mois aussi qu'on se tape des purges. Il y a eu les beaux matchs contre Barcelone et le Bayern en Ligue des Champions. Bravo à lui. City en demi-finale, c'était déjà un peu moins bien. Et à
le Bayern, ça passerait crack.
Voilà. Bon, non, le Bayern, c'est bien.
Non, mais alors, je ne vais pas vous gêner, Dominique, hein, mais vous seriez le président du Paris Saint-Germain.
Oui.
On a eu Emery, on a eu Tuchel, oui. On a eu bien avant...
Blanc. Ancelotti.
Ancelotti. Qui vous voulez mettre, quoi ?
Je veux dire, je ne change pas l'entraîneur, je ne le vire pas.
On sent déjà dans les analyses que Pochettino ne lâche rien en conférence de presse, qu'il ne trouve pas les solutions sur le terrain.
Oui, mais Deschamps ne lâche rien non plus, et ça va.
Il y a déjà ce début de petite musique avec Pochettino.
On
ne
va pas virer Pochettino au bout de... Combien 7 matchs a dit Xavier ?
7 matchs.
Non, mais on se pose des questions sur sa capacité à gérer ce trio magique.
Moi, je trouve que par rapport à Tourelle, Pochettino, quand c'est mieux que Tourelle, c'est beaucoup mieux. Et quand c'est moins bien que Tourelle, c'est beaucoup moins bien.
On va tourner une page de publicité.
Dans l'excellence, je suis désolé, le Bayern, par exemple, et le Barcelone, le 4-1 à Barcelone, c'est un chef-d'œuvre.
On va tourner une page de publicité et on ne va pas rebondir sur quelqu'un qui m'a appelé cet après-midi en me disant c'est pas une information, c'est pas encore une indiscrétion, mais c'est quelque chose qui peut se mettre en place en cours de saison si ça se passe mal. C'est Zidane.
Ah oui, ok, il y a cette rumeur-là, effectivement.
Voilà. La pub.
Christian Olivier sur RTL.
On refait le match.
La suite est bientôt la fin, malheureusement. Mais non. Il y a RTL Foot derrière, 20h-23h, évidemment, avec toute l'équipe de Silvestro et de Domergue. Et le match Saint-Étienne-Bordeaux. Tiens, je rappelle le score quand même pour tous ceux qui nous rejoindraient. Le derby du Nord, émaillé de quelques incidents à la mi-temps. Match qui a été retardé de 30 minutes avec des supporters lensois qui sont arrivés sur la pelouse, qui auraient voulu faire peut-être le coup de poing avec les Lillois qui voulaient faire de même. Bref, victoire grâce à Frankowski du Racing Club de Lens face à Lille par 1-0. Je crois qu'on a tout dit sur le PSG, non?
Non, je ne vous en tirerai pas comme ça. Vous venez
Non, j'ai oublié la promo. C'est PSG City dans une dizaine de jours sur l'antenne de RTL en direct.
C'est formidable.
Enfin, en direct, c'est normal, mais intégralement.
Formidable. Mais vous venez quand même de nous annoncer que Zidane arrivait au PSG dans quelques temps.
Non.
Vous ne pouvez pas vous échapper en lançant un autre débat, excusez-moi.
Non. J'ai pris toutes les précautions oratoires.
Oui, on vous connaît parce que vous sourcez vos informations et vous êtes très méticuleux. Mais vous avez quand même lancé le nom de Zidane.
De toute façon, je pense que le nom de Zidane circulait déjà avant. Donc je le donne il y a 3 minutes.
Vous l'avez officialisé, mais et c'est très bien, mais c'est quand même
j'ai rien officialisé du tout.
Non, vous avez officialisé que cette rumeur circulait d'une manière réelle. Zidane, c'est quand même compliqué parce qu'il vise l'équipe de France. Zidane, c'est le Marseillais, mais je suis d'accord que ça va être tentant pour le Qatar. On connaît les proximités Zidane-Qatar, donc forcément, c'est tentant.
C'est plutôt des Qataris et ça vient, effectivement.
Ah oui, ça vient de Doha, directement.
Zidane n'a jamais joué à l'OM. Il est juste allé à Marseille.
Non, mais il y a une...
Mais pourquoi cette rumeur vient ? Elle vient par l'effet que... Voilà, c'est une rumeur,
supplie,
là.
Ne me faites pas dire ce que je n'annonce pas.
Non, mais c'est une rumeur.
Vous avez toujours un plan B, de toute façon. Au service des sports, quand vous faites un planning, vous avez peur que quelqu'un soit malade. Si Silvestro est malade, il y a un plan B.
C'est le plan B. C'est souvent, c'est le plan A.
Durieux, quand il s'en va, vous avez personne pour le remplacer.
Justement. Je ne veux pas changer de sujet, mais je voulais vous donner les
mots. Mais pourquoi parler de lui ? Parce qu'en équipe de France, la rumeur des basses, c'est en équipe de France, mais Deschamps, il est là, il n'a pas. Donc du coup, on commence à parler de ça. C'était trop facile, limite, d'amener cette rumeur. Mais ceci étant dit, si j'étais Pochettino, je ferais attention.
Tu as déjà été évoqué quand cet été, on a dit que Pochettino ne resterait pas. On a dit, c'est pour Zidane, parce qu'effectivement, il a des relations privilégiées avec le Qatar. Il a été l'ambassadeur de la candidature du Qatar à la Coupe du Monde 2022. Donc il a déjà travaillé avec eux. Et eux, ils le tiennent en haute estime. Maintenant, de là à ce qu'il sorte de son confort de Madrid,
où il attend tranquillement
l'équipe de France après la Coupe du Monde 2022 pour venir se jeter dans le panier de crabes parisien, il y a quand même un grand pas fait.
Avec moi, des très grands joueurs, quand même.
Zidane va être une menace pour Solskjaer à Manchester United, va être une menace pour tous les coachs. Dès que ça va mal aller...
Il n'ira pas en Angleterre.
Dès que ça va mal aller...
Non.
Dès que ça va mal aller,
on va
annoncer son nom à Paris, à Manchester, à Liverpool, à la Juve, partout où il y aura un entraîneur qui sera un peu fragilisé. Quand vous avez un triple champion d'Europe entraîneur... entre guillemets, en réserve de la République, pas au chômage, j'ai pas envie de dire au chômage, parce que c'est faut pas comparer ça avec des gens qui sont au chômage, mais qui ne travaillent pas, forcément, il va être annoncé partout.
Il y a deux destinations possibles pour Zidane, la Juventus et l'équipe de France. Basta.
Non, mais ça pourrait être aussi, on va pas parler sous la rumeur.
Non, on va parler du sondage de la polémique.
Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas assez parlé de la défense du PSG? Parce que Chelsea, quand il a gagné la Champions League, c'était comment? Il s'en cassait très peu du but. Et là, c'est les problèmes problèmes du PSG, il est là, il n'est pas dans l'entraîneur. Enfin, je ne dis pas qu'il y soit pour rien, mais c'est plutôt ça, les problèmes du PSG.
Le sondage de toutes les polémiques. Alors, vous savez que la FIFA, et on en a déjà parlé à deux reprises dans On refait le match ces deux derniers samedis, fait le forcing pour imposer une Coupe du Monde tous les deux ans. Ça a été initié par Arsène Wenger. Nouvel épisode, un sondage qui est quand même assez bizarroïde, qui a été commandé par cette instance pour démontrer la pertinence de ce projet. Alors, dans un premier temps, on ne trouvait pas de résultats en pourcentage dans le communiqué de la FIFA qui donnait des résultats de façon très floue, en disant qu'une majorité de personnes sondées souhaitaient un mondial plus fréquemment et qu'au sein de cette majorité, la préférence allait au biannuel. Alors, il y avait des chiffres qu'on souhaitait avoir, on les a quand même eus. 55% des personnes seraient pour un mondial plus souvent, mais pas tous les deux ans. En fait, il y a 30% qui en veulent tous les deux ans, 14% tous les ans et 11%.
Ça me rappelle, Christian, donc on arrive à 55%. Le projet de Super League a fait exactement pareil. Pour se lancer, il a sorti un sondage bidon en disant « la majorité des Européens veulent la Super League ».
Je ne sais pas s'il est bidon, mais il est très orienté.
Sondage, c'est très facile de lui faire dire entre guillemets ce que vous voulez. Mais après, comme par hasard, Odoxa, le partenaire d'Hertel, avait fait un sondage juste après, et les Français, par exemple, et même en Europe, ne voulaient pas de la Super League. Et ben voilà, Monsieur Infantino, c'est la même logique. Monsieur Infantino, il était pour la Super League. Il était un petit peu derrière les traîtres de la Super League. C'est des gens qui veulent enfermer les compétitions et qu'elles reviennent tout le temps. La Super League et la Coupe du Monde, tout le temps. Il faut occuper l'espace, occuper la pub et faire du fric. Et le football, ça les intéresse pas.
Gilles Verdez.
Alors, vous m'avez demandé de bosser sur ce sondage. Pour simplifier, il y a 5 raisons pour lesquelles c'est totalement magouillé.
Je n'ai pas été clair.
Si ? Absolument.
D'accord.
Vous m'avez demandé de réviser sur le sondage. Il y a 5 raisons quand même. Bossé. D'abord, 3 possibilités sur 4 de réponses. Ça allait vers « oui, je veux une Coupe du Monde tous les deux ans ». Ensuite, il y a 23 000 personnes au départ, il y en a 8 000 qui répondent pas bien, boum, on les vire, on prend que les 15 000 qui répondent bien. Sondage fait à la fin de l'Euro, au moment où tout le monde rêve de voir les équipes nationales jouer tout le temps, et sondage fait majoritairement dans des pays qui disputent pas la Coupe du Monde. Je prends l'exemple de l'Océanie, on a interrogé comme par hasard les Néo-Zélandais qui y vont jamais et pas les Australiens qui y vont
tout
le temps.
C'est important ça, 23 pays ont été sondés.
Oui.
Alors par exemple la France
l'Italie, l'Argentine, pas sondés.
Voilà, l'Argentine, l'Italie, c'est ça.
C'est,
hein,
c'est pas des pays.
Absolument. La Nouvelle-Zélande, l'Indonésie et l'Inde ont été sondés.
Oui.
1000 personnes par pays.
Voilà. Et en Inde, évidemment, ils veulent la Coupe du Monde tous les deux ans parce qu'ils l'ont jamais joué, ils se disent peut-être qu'on ira plus souvent. N'empêche que mais il y a quand même un vrai problème, c'est qu'au-delà de ce sondage effectivement qui est bidon, il y a la volonté d'Infantino de faire passer ce projet, mais vraiment à l'arrache maintenant. Ils veulent faire passer tout de suite, et pour ça ils s'appuient sur quoi? Sur le système de la FIFA qui est une fédération. Une voix. Et une fédération, une voix, vous avez plus de pays qui n'ont jamais joué la Coupe du Monde, et probablement qui ne la joueront jamais, que de pays qui l'ont joué, et a fortiori qui l'ont gagné. Donc, il y a effectivement cette petite musique qui peut sonner à l'IMA, au président de la fédération des îles Caïmans, du Népal, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui va se dire « Ah ben moi, peut-être si je fais un jour la Coupe du Monde, avec en plus l'argent qui va avec... »
Les ressources financières seront récurrentes dans ces pays-là.
Et je l'organiserai.
Elles seront récurrentes, à part que quand vous dévaluez un produit, parce que ce qui est rare est cher. La Coupe du Monde, ça a de la valeur, parce que c'est tous les 4 ans. Quand vous le dévaluez en le faisant tous les 2 ans, déjà, les droits télé, tout ça, ça va baisser. Et donc, les primes qui reviendront au président des fédérations, des petites fédérations dans le monde entier, en Afrique, en Océanie, en Amérique du Sud, ailleurs, elles vont aussi baisser. Donc, c'est vraiment, vraiment un gros coup d'intox de la part d'Infantino.
Le CIO n'arrive déjà pas à trouver des candidats pour organiser les JO tous les 4 ans. Je vois pas comment on va faire.
C'est un point important, effectivement, qu'on n'avait pas évoqué lors de nos deux débats précédents. Les diffuseurs télé n'ont pas le portefeuille suffisamment garni à un moment donné pour proposer une Coupe du Monde tous les deux ans.
Est-ce que c'est très 2021? Est-ce que en bilan carbone de réunir toutes ces équipes? Parce qu'en plus, on va passer à combien? Coupe du Monde
48.
À 48. Donc, ça veut dire les déplacements de supporters, les avions, les hôtels, les machins. Est-ce que tout ça, c'est pas un peu trop pour tous les deux ans?
Non, mais au-delà du fait que les sondages, il n'est pas représentatif, moi, ce qui m'inquiète, c'est que les supporters sont aussi un peu fatigués de ces trêves internationales qui durent. On a l'impression qu'on sort d'une, qu'on va encore dans une autre. On a des matchs, par exemple, l'Argentine et le Brésil, ils vont jouer le 15 octobre. Donc, les clubs français vont devoir être privés de leurs internationaux sud-américains. Et on sait que des équipes comme, par exemple, Monaco, on les prive d'un Maripan. Et alors là, c'est vraiment difficile au niveau de la défense. Donc, en fait, c'est tout un tas de raisons, sans parler du fait qu'il y a des matchs amicaux. Donc, en fait, au niveau des calendriers,
Il n'y aura plus de matchs amicaux.
Voilà.
Il y aura
c'est
deux séquences. Octobre-mars.
Voilà.
Octobre-mars.
Ça, c'est plutôt le bon côté du projet.
Ça, c'est, les bons
c'est le seul bon côté, je trouve.
Effectivement, c'est qu'il n'y a pas
de réduire les périodes de ce qu'on appelle injustement en France les trêves internationales, parce que c'est des trêves pas pour les internationaux, parce qu'ils vont jouer, ils se déplacent, ils ont du jet lag, des décalages horaires à supporter. C'est de réduire les nombres de fenêtres internationales en l'élargissant. Parce qu'effectivement, quand vous faites trois fenêtres internationales de 10 jours à l'automne, comme c'est le cas, septembre, octobre, novembre, vous plombez tout le monde, vous plombez les clubs. Cindy Colmenares vient bien de l'expliquer avec les joueurs sud-américains qui ne peuvent pas jouer en Ligue 1 lorsqu'ils reviennent de ces matchs éliminatoires. Mais surtout, vous plombez toute l'organisation. Alors que si vous les regroupez. Si vous
les regroupez.
Non, mais sans faire la Coupe du Monde tous les deux ans, effectivement. Exactement.
Non, mais les matchs amicaux, c'est les côtés positifs, mais on pourrait très bien se passer de ces matchs amicaux sans pour autant mettre une Coupe du Monde chaque deux ans. Parce qu'en fait, désolé, mais moi, la première chose que j'ai pensé, c'est qu'on n'a quand même pas dégoûté autant le monde en tant que champion du monde de la France. Parce que j'ai l'impression que ce qui est joli aussi, c'est le fait de pouvoir être champion pendant un bon nombre d'années. On défend ces titres quelque part pendant 4 ans. L'Allemagne l'a fait, la France l'a fait.
Mais ça, c'est pas un argument pour la France.
En tout cas, la guerre est proche parce que l'Allemagne et le Portugal ont voté fédération, entraîneur, joueur cette semaine en disant non à ce projet. Donc la guerre est proche.
Mais l'UEFA a dit que la FIFA pouvait faire sa Coupe du Monde tous les deux ans, mais que n'irait pas.
Il y a une bataille qui fait rage entre Seferin et Infantino, c'est terrible. On est à un niveau de haine entre ces deux personnages.
C'est fou. Comme avant, entre Blatter et le président de l'UEFA.
Les intérêts se rejoignent.
Là, je pense que c'est très exacerbé.
Enfin, en tout cas, la FIFA nous promet désormais un sondage, mais auprès de 100 000 personnes.
Ah, non. Ouais, vous avez été entendu.
Mais toujours sans les Brésiliens, sans les Argentins.
Mais avec les Indiens.
Voilà. Et c'est pas l'eau, etc. Enfin,
vous savez ce qu'on dit, en général. Non. Affaire à suivre. Ah. 19h54, la publicité et les tirs au but pour Gilles Verdez. Vous êtes en tête au classement général provisoire avec Sébastien Tarrago.
Vous êtes sûr que c'est pour l'effort? Si Gilles Verdez est en tête, c'est vraiment pour l'effort?
3 ou 4 questions. Je rappelle la règle du jeu parce que Sévrac n'était pas là depuis le début de la saison. C'est-à-dire que le gagnant de ce jeu qui reste à peaufiner un peu.
Non, il est très bien.
Eh bien, paye son verre, mais à la fin de la saison. Voilà. voilà, ça vaut ce que ça vaut. Hein. La publicité.
On refait le match sur RTL
avec Christian Olivier.
Les tirs au but avec deux ou trois thèmes d'actualité qui n'ont pas été évoqués en longueur dans On refait le match depuis que nous sommes ensemble, 18h30. Et vous attendez, madame, messieurs, le coup de sifflet, bien
ça
évidemment.
Ça, c'est
vous mordez sur le coup de sifflet, vous êtes disqualifié.
Discipline.
Et nous allons commencer par...
Mets-toi en tête, toi.
Tiens, la une de l'équipe, Dominique, la une de l'équipe, si vous me permettez, avec les conditions salariales qui sont faites à Lionel Messi. Au total, Messi toucherait 110 millions d'euros en 3 ans. 3 ans cette saison, net d'impôts. Hein. 40 la saison prochaine, 40 la troisième saison qui est optionnelle. Pourquoi 10 millions de plus sur les deux dernières saisons? Cela correspond à une prime dite de fidélité. Fidélité, choquant ou pas choquant?
Choquant, parce que alors il y a parfois distribué par le Qatar des primes d'éthique, des primes de fidélité. En fait, c'est des salaires masqués, ça rime à rien parce qu'ils les ont. Donc franchement, moi je trouve que ces sommes sont choquantes et la manière dont est organisé ce salaire dont il est découpé choquante aussi.
Et c'est pas le PSG qui fait ça, hein. C'est tous les clubs qui déguisent une partie de salaire, soit pour la défiscaliser, soit pour c'est des montages qui permettent de se payer des immenses stars. Mais quand Tom Cruise pour un Mission Impossible gagne 25 millions de dollars pour un film, vous dites rien, Gilles.
Et le montage parce qu'on me le demande pas.
Et le montage est le même. Et le montage Universal fait pareil pour avoir Tom Cruise. Bon voilà.
C'est alors deux choses qu'il faut préciser, c'est que la prime de fidélité compense la prime à la signature qu'il n'aurait pas eue.
Et oui.
Une prime à la signature. Et la deuxième chose, je suis en train de l'oublier. Non, c'est qu'il touche beaucoup moins à l'arrivée, nous dit-on, que ce qu'il aurait dû toucher ou pu toucher à Barcelone.
Ah non.
Non mais il y a un truc qu'on a dit.
Ah non. Il touchait avant, mais il aurait touché la même chose parce qu'il diminuait de 50%.
Il touchait combien? 55 millions.
55 millions sur 4 ans.
Il y a un truc qu'on ne dit jamais, parce que c'est Messi et qu'il faut le respecter, mais il n'avait pas d'autre offre en fait que le Paris Saint-Germain, Christian. Il est venu à Paris parce qu'il n'a pas d'autre offre.
Deuxième tir au but, toujours le PSG, on en parlait samedi dernier également. Phil Collins revient, DJ Snake, un petit tour et puis s'en va. On parle de la musique là, pour saluer l'entrée des joueurs lors de chaque rencontre. Décision, le retour de Phil Collins, décision salutaire ou quand même un peu rétrograde ou passéiste?
Non, salutaire.
Ah, je crois que c'est Dominique Cérac. Salutaire.
C'est salutaire. Et un club, c'est aussi une tradition, une histoire, une mémoire. Donc c'est bien. Voilà. En plus, cette musique de DJ Snake, elle n'était pas bonne. C'était pour la célébration de Messi. Même lui disait qu'elle n'était pas faite pour ça. Donc voilà, tout le monde est content.
En fait, c'est surtout ça. C'est que comme elle n'était pas destinée à la base par DJ Snake pour faire l'entrée, c'est pour ça que ça semble illogique. Et donc, il se donne les temps de chercher vraiment une musique qui puisse correspondre.
Troisième tir au but. Ce sera le dernier. La commission discipline de la Ligue nationale de rugby a sanctionné un joueur de Pro D2 de 26 semaines de suspension pour insultes racistes. Le football doit-il suivre l'exemple ou alors comparaison n'est pas raison?
Oui, oui, le football doit suivre l'exemple.
Je pense que c'est Cindy Colmenares.
Les footballs, et ça fait un moment que c'est les cas qu'ils doivent plus durcir et commencer à mettre des vraies décisions, des choses qui vraiment vont à décourager ces genres de choses qui n'ont absolument pas lieu dans un terrain sportif.
Sauf que 26 semaines, c'est pas assez. Ça aurait dû être les 52 semaines prévues initialement.
Et ça lui fera jouer simplement que les deux derniers matchs de la saison.
Oui, mais c'est encore trop.
Mais c'est un très bon exemple. Et en fait, les footballs, de temps en temps, devraient s'expirer de ce type de sport, comme le rugby, les baseball. Oui.
On fait le match, est terminé, madame, messieurs. Merci Cindy Colmenares, merci Xavier Barret, merci à Dominique Cérac et
bravo
à Julien Berbès, bien évidemment.
Merci à Baptiste aussi. Ouais.
Pardon
bravo à Baptiste.
Ah, Baptiste, bah,
il l'a retrouvé ou pas?
Ah, mais on va le chercher.
Ah, oui.
Et on va suivre de très très près les résultats de la Ligue 2 désormais.
Ça.
Dans RTL Foot, 20h-23h, avec Eric Silvestro, avec Xavier Domergue et avec Baptiste Durieux, avec vous tous, bien évidemment. Très bonne soirée à l'écoute de RTL. Très bonne nuit. Ciao, ciao.
On refait le match sur RTL.